À l'occasion de la sortie du livre « Design Masterclass, pratique moderne du design » le 7 décembre 2023, nous avons réalisé 3 entretiens afin d'accompagner votre lecture. Dans ce premier entretien avec Germain Diagne, nous parlons de la recherche en expérience utilisateur, des évolutions du métier, de la place de la recherche dans les organisations et des attributs du bon design. Vous pouvez retrouver tous nos épisodes sur notre site internet designmasterclass.fr et sur les plateformes habituelles Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts. Vous souhaitez aller plus loin ? En vous abonnant à notre newsletter, vous allez recevoir une liste de livres, ressources et des bonus. Rendez-vous sur notre site internet.
Moi, c'est Germain, j'ai 39 ans. Je suis consultant indépendant en management UX Research. Mon parcours, eh bien, c'est plus de 10 ans en agence web, notamment sur de la gestion de projet. Puis ensuite, j'ai été consultant, ça fait 7 ans que je suis consultant et 5 ans surtout je suis indépendant, où j'ai exercé principalement dans des grands comptes, mais avec un petit intermède où j'ai été head of research au sein d'une startup.
Germain partage sa définition du métier de chercheur et chercheuse et la nécessité d'une certaine souplesse pour faire le grand écart.
Pour moi, être chercheur ou chercheuse, je résume souvent comme ça, c'est en fait c'est un peu comme être un gymnaste, faut être souple, il faut savoir faire le grand écart. Hein. Un grand écart entre le maniement des chiffres, notamment toute la partie data, statistiques, analytics, etc. et le maniement des mots, des lettres, savoir extraire les bons verbatim, poser les bonnes questions, etc. C'est souvent deux domaines qui peuvent être assez éloignés, et pourtant on doit être bon sur ces deux parties. Je dirais qu'être chercheur, si on doit résumer sur quelques compétences, je dirais que c'est être curieux, c'est être empathique pas seulement vis-à-vis de l'utilisateur, mais aussi vis-à-vis des parties prenantes, toutes les personnes qui décisionnaires aussi, pour savoir expliquer. Savoir prendre de la hauteur, de l'humilité et de la neutralité. C'est plus que des prérequis. La recherche, c'est vraiment un domaine qui est scientifique, universitaire. On peut pas faire n'importe quoi, on peut pas s'improviser chercheur, chercheuse, researcher, researcheuse. Tout ça, c'est vraiment au service justement de la méthode et de surtout de la qualité de la donnée qu'on va récolter. Parce qu'en fait, on est vraiment sur cette partie-là, on collecte une source de données, je dirais qualitative, en rencontrant différents utilisateurs ou clients. Et c'est justement par ces qualités-là qu'on va réussir à créer les conditions de la confiance, de l'échange avec notre testeur, notre utilisateur, notre client, être capable d'extraire les bons mots, justement, les bonnes sensibilités, les bonnes émotions, et d'être capable de les retranscrire.
Lors de nos précédents épisodes, fin 2021, nous avions le sentiment que le métier subissait un effet de mode.
C'est la mode, c'est cette méthode qui vient des États-Unis, ça devrait être, si on fait du design thinking bien, on doit le faire. Et donc du coup, on se dit, on va investir dedans, mais sans vraiment trop savoir pourquoi et sans trop savoir ce que ça apporte.
Oui, il y a un effet de mode autour de la research. Avec tout ce que ça comporte de positif, voire même de grisant, hein, c'est même génial en fait de savoir qu'on est sur un secteur qui est porteur, ça n'a pas toujours été le cas. Mais aussi avec toutes les alertes et les précautions qu'on doit prendre pour en fait, pas scier la branche sur laquelle on se trouve. La tech ou le digital aime beaucoup hein, toutes ces bulles. Enfin, j'en ai quelques-unes en tête. On parle d'agile, on parle de big data, ops. Aujourd'hui, c'est l'IA, par exemple. Souvent, ce sont pas des choses qui sont si nouvelles que ça, mais on aime bien conceptualiser et ça prend des proportions parfois folles. Puis après, je dirais non, parce que c'est un métier qui est pas aussi nouveau qu'on le décrit ou qu'on le vend nous-mêmes, hein, d'ailleurs. C'est plus une forme d'un métier qui s'est réinventé ces dernières années, une forme d'hyperspécialisation qui est née en fait de ce que j'appelle l'hybridation des compétences. On est issu de plusieurs domaines, que ce soit de la gestion de projet, le design, le marketing, enfin d'autres. Et tout ça, ça se structure en fait pour poursuivre une forme d'évolution naturelle. Aujourd'hui, quand je lis des fiches de poste sur la research, j'ai l'impression de voir une fiche d'un chef de projet AMOA il y a 10 ans, par exemple. Sauf qu'auquel on a agrémenté des compétences supplémentaires en design, en web analytics, enfin voilà. Donc de ce point de vue-là, non, c'est pas qu'un effet de mode, c'est juste que ça se restructure. Puis je pense aussi que c'est lié à un besoin structurel lié à la digitalisation à marche forcée dans certaines organisations, certaines entreprises, enfin toutes même d'ailleurs. Il y a une forme de prise de conscience au sein de ces entreprises qui ont commencent à comprendre la valeur notamment économique, commencent à comprendre que ça coûte toujours moins cher d'essayer de faire l'effort de comprendre ses utilisateurs, ses clients, que finalement de réparer des expériences suite à des décisions qui sont auto-centrées en fait.
La recherche coûte-t-elle trop cher ? Exemple à l'appui, Germain explique qu'il est parfois moins cher de valider ses opportunités avant de lancer les développements.
Quand j'étais head of research justement en startup, j'ai réussi à chiffrer en fait le coût ou l'impact en fait que représente la valeur économique de la research. Il y a une fonctionnalité qui avait été lancée sans passer par mon équipe research. Et nous, quand on était en train de lancer justement nos sessions de test, on se rendait compte que cette fonctionnalité n'allait pas fonctionner. Enfin, en tout cas, que ça prenait pas et que, il y a quelque chose qui n'allait pas. Mais sauf que c'était dans le sprint, pouf, c'est parti, ça a été lancé et nous, on courait après ça finalement. Bah, du coup, on a chiffré. En fait, on s'est rendu compte que, en fait, en lançant deux researchers sur une après-midi, en allant juste les sortir dans la rue et aller questionner justement des utilisateurs potentiels ou réels de l'application, ça coûtait au bas mot, c'était quoi ? C'était une demi-journée, donc on va dire que c'est 450 € en fait pour l'entreprise. Le coût du sprint, tel qu'il a été lancé, c'était 30 000 €. Avec une demi-journée et 450 € d'investissement, on aurait pu éviter de lancer un sprint à 30 000 €. Mais surtout, au-delà du coût du sprint, c'est surtout le coût de la dette que ça génère. Il y a la dette technique, évidemment, parce qu'il va falloir derrière reprendre les développements, etc. Mais il y a la dette humaine, parce que derrière, c'est quand même des développeurs, des techs qui ont travaillé dessus. Et forcément, ils prennent ça comme une remise en cause et ils vont pas apprécier justement que de devoir refaire le travail qu'ils venaient de faire et qu'ils avaient forcément bien fait. D'ailleurs, il n'y avait pas de souci. D'ailleurs, c'était validé par les process. Puis c'est une dette organisationnelle aussi, donc finalement, tout bout à bout, ça fait que c'est comme un effet boule de neige et que essayer d'avoir ce type d'exemple en tête pour assez concret pour dire, n'allez pas trop vite quand même, parce que peut-être que ça va vous coûter plus cher de vouloir aller trop vite que de laisser le temps requis pour pouvoir faire la chose, même si ça peut sembler long, même si ça peut sembler aussi quelque part coûteux, mais finalement, ce sont des faux arguments.
Comme de nombreux métiers, ceux de la recherche en expérience utilisateur évoluent. Quelles sont les évolutions de ces dernières années ?
Alors après, c'est forcément conditionné à l'environnement dans lequel on travaille. Donc là, je suis effectivement actuellement chez Decathlon, donc entreprise très connue, presque historique, enfin en tout cas qui a vraiment beaucoup, qui commence à avoir de l'ancienneté, qui est renommée, qui a ses propres modes de fonctionnement issus d'une autre époque et qui justement investit énormément dans le digital et se réinvente et est bousculé justement par toutes ces nouvelles choses qui arrivent en ce moment sur le marché. De ce que je vois, en fait, je trouve qu'il y a une évolution qui est très, moi je trouve on est très axé sur le quantitatif, beaucoup plus sur le qualitatif. C'est quelque chose que je retrouve beaucoup. Des outils pour faire du quanti, il y en a tellement, il y en a énormément. Et en fait, la data, on en a déjà en quantité astronomique, en fait. C'est suffisant, il suffit d'exploiter la data qu'on collecte déjà aujourd'hui et ça peut suffire. Or, la data qualitative, elle, on n'en a pas tant que ça, même voire très très peu. Et c'est là-dessus qu'il faut investir, parce que c'est là-dessus qu'on va aller chercher les émotions. Et les émotions, c'est pas juste une réaction. Enfin, faut vraiment directement les connecter au business, pour le coup. Une frustration, bah, ça a une incidence très forte, parce que ça fait qu'on ne reviendra pas sur le site, ou qu'on va vivre une mauvaise expérience, et qu'on va la communiquer à d'autres. Paradoxalement, on est amené à exécuter de plus en plus de tâches qui sont très découpées, qui sont pas forcément très valorisantes, ou valorisées, en tout cas. Et je suis frappé de voir, en fait, qu'il y a des équipes research qui se mettent en place, mais qui, au fond, ne vont jamais voir un vrai, entre guillemets, utilisateur, un vrai client. Comme on a fait des designers de bureau, on est en train de produire des researchers de bureau, en fait, maintenant, qui vont aller consulter des analytics, qui vont faire du test non modéré. Alors, c'est bien, ça fait gagner du temps, mais c'est utile, mais on peut pas s'en contenter non plus. quand je parle de researcher du bureau, enfin, je vais caricaturer, mais c'est 80% derrière son écran et 20% à aller sur le terrain. Ça devrait être l'inverse, quoi. Ça devrait être passer le maximum de temps connecté directement à l'environnement de l'utilisateur et un minimum de temps sur son écran. Alors, bien sûr qu'il y a le temps d'analyse, etc., que l'ordinateur est un outil de travail. On peut pas s'en passer. Donc, je pense que ça, c'est une évolution, en tout cas, que je ressens et c'est vraiment de prouver la valeur du verbe, du qualitatif, de l'émotion au travers des livrables qu'il faut faire de plus en plus didactique, pédagogique, impactant, en tout cas pour aider justement à la prise de conscience et aider à la décision centrée sur l'utilisateur.
Nous avons l'injonction à aller toujours plus vite. Quelles sont les responsabilités des chercheurs et chercheuses dans cette course à la vitesse ? Germain partage son avis sur la temporalité de la recherche.
J'insiste toujours là-dessus, la research a sa propre temporalité. Et on doit être, quelque part, les maîtres de nos propres horloges. Quand je dis ça, ça ne veut pas dire qu'on doit se siloter et s'isoler du reste du monde. Au contraire, c'est qu'on doit trouver le bon tempo. On ne peut pas faire chacun sa partition dans son coin. Il faut chacun va avoir sa propre partition. Et en fait, à un moment, pouf, on va être sur le même rythme, par contre, et réussir à se connecter, à se synchroniser. Si on n'est pas exigeant dans ce qu'on fait, dans ce qu'on livre, si on fait trop de concessions, voilà, c'est ça que je cherchais, si on fait trop de concessions en disant oui, allons vite, faisons le minimum avec le maximum d'impact, ok, faisons toujours des quick wins, bah en fait, on va être réduit à ça. On peut toujours aller vite, on peut toujours faire très rapide et très percutant. Mais sauf qu'en fait, c'est toujours détriment de la qualité et du travail de fond qui est vraiment, pour le coup, la vraie valeur du researcher. C'est là qu'on a quelque chose. Et ça, c'est vraiment du temps long. C'est des choses sur lesquelles on peut capitaliser sur du temps long, qu'on peut partager à différentes équipes de toutes origines. Notre responsabilité, c'est de toujours faire un travail de qualité pour vraiment montrer que c'est pas un job comme un autre et qu'il y a ça vraiment une valeur très, très forte. Pas pour soi, mais pour toute l'entreprise, pour tout un collectif. Parce que la valeur de la recherche, elle est vraiment dans le partage. Et c'est ça qui est vraiment la clé. C'est que ce qu'on livre, c'est partageable. Tout le monde peut s'en servir, mais chacun, sur son propre périmètre, peut récupérer une petite partie qui va lui servir et puis un autre, une plus grosse partie qui va lui servir autrement. Mais voilà, derrière un insight, finalement, on peut avoir des interprétations, des utilisations différentes selon les perspectives et des différentes équipes qui vont les exploiter.
Dans une équipe, chercheuses et chercheurs sont amenés à travailler avec différents métiers et parties prenantes.
J'ai travaillé de toutes les manières possibles et imaginables pour le researcher. Il en existe sûrement d'autres. J'ai travaillé en solo, en étant le seul researcher de l'organisation. J'ai travaillé en mode centralisé avec d'autres researchers et designers. J'ai travaillé en étant directement intégré à une équipe produit avec des compétences tech, data, etc. Il y a différentes manières de travailler quand on est chercheur. Ce qui compte, c'est qu'on soit le plus connecté à la réalité, en différentes équipes, en tout cas qu'on puisse livrer ce qu'on produit pour les rendre activable. Forcément, quand on est en mode centralisé, c'est toujours plus difficile parce qu'on se retrouve réduit à un centre de service ou à un mode agence où finalement on produit et puis finalement on livre et on sait pas comment c'est exploité. Donc l'intérêt, c'est d'être toujours le mieux connecté à des équipes produits. Moi, quand j'étais head of, je me suis attaché à créer une organisation hybride pour essayer de reprendre un peu le meilleur des chaque monde. Ma vision, en tout cas, c'est d'avoir une petite équipe de researchers qui, elle, peut être centralisée. Et son but, c'est d'être détaché, finalement, de l'organisation et d'être focus sur de l'exploratoire et des sujets macro, on va dire. Mais après, il y a des product designers qui, eux, sont directement rattachés à des équipes produits et qui vont, finalement, récupérer les entrants que les researchers ont pu avoir et récolter pour justement se les approprier et en faire la traduction design de l'expérience attendue, en tout cas selon les objectifs, selon les problématiques de leur équipe produit. Et la clé là-dedans, c'est déjà l'articulation entre researcher et product designer. Donc là, il y a un besoin de communication, de synchronisation. Moi, paradoxalement, en tout cas, j'ai constaté qu'il pouvait y avoir des frictions entre researcher et product designer. Ça, moi, c'est quelque chose qui m'avait surpris, parce que pareil, pour moi, en fait, la research fait une compétence clé du product designer. C'est une spécialisation pour le researcher, mais c'est une compétence clé pour le product designer. Et j'ai constaté des frictions entre ces deux corps de métier. Mais c'est souvent si pareil lié à la maturité du product designer. En fait, souvent, le product designer, il peut être un ancien UI designer, qui était un ancien web designer. Enfin, bref, dans les intitulés, des fois, ce sont des intitulés un peu fourre-tout. Donc, en fait, on ne sait pas vraiment s'il a ses compétences de research. Donc, il y a forcément un niveau d'homogénéisation, en tout cas, à atteindre. Après, il faut aussi, il y a l'articulation entre le pôle, on va dire, research, design et product management. C'est une articulation qui est nécessaire parce que justement, il faut qu'on puisse donner toutes les billes à on va dire, au décisionnaire produit de pouvoir prioriser et d'organiser justement la production en intégrant justement les besoins utilisateurs. Donc là, il y a un besoin effectivement de collaboration, mais qui là aussi qui peut générer des frictions, un peu ce qu'on évoquait tout à l'heure, parce que là on n'est pas sur les mêmes rythmes, le rythme de delivery n'est pas celui de l'exploratoire, donc il y a des urgences, enfin voilà, une backlog qui peut être débordante, donc c'est très dur d'intégrer des nouvelles choses, donc ça peut aussi s'entendre, mais là c'est indispensable de pouvoir travailler ensemble. Et puis il y a aussi rapprocher aussi les équipes tech, les équipes dev de la research, pour aussi donner du sens justement à ce qu'elles développent et pas être juste des pondeurs de lignes de code, pour les résumer comme ça. Regardez ce que vivent les clients, les utilisateurs au travers de ce que vous développez. Donc essayez de rapprocher justement ces deux mondes. Quand j'amène des développeurs sur le terrain de la research, souvent ils sont très enthousiastes. Ils adorent en fait voir justement comment ils utilisent et c'est indispensable, mais on leur donne pas souvent l'occasion de pouvoir le faire. Donc voilà, donc là, il faut aussi savoir travailler ensemble. Donc finalement, le researcher, il a un rôle qui est un peu pivot finalement, parce qu'il doit savoir parler à tout le monde et doit surtout savoir adapter son discours à chacun des métiers avec lesquels il est en train de collaborer. C'est indispensable aussi de se rendre visible et disponible auprès de chacun dans une organisation.
Nous constatons l'évolution des métiers et la présence accrue des pratiques Ops. Germain explique comment ces pratiques l'aident au quotidien.
Il y a différents outils qu'on peut utiliser. Il y a évidemment tout ce qu'on appelle les repositories, enfin les outils qui vont en tout cas permettre de centraliser. Moi, j'utilise un outil qui s'appelle Condense, que j'aime beaucoup, mais après on peut utiliser aussi Dovetail, Userbit, enfin bref, il y en a beaucoup maintenant sur le marché qui arrive, mais j'aime beaucoup celui-là parce que je trouve qu'il est très bien, notamment dans la récupération, en tout cas des interviews vidéo, dans les highlights qu'on peut mettre en place, etc., et qu'on peut partager. En fait, on peut très rapidement partager de la matière research à tout le monde, et c'est ça que j'aime beaucoup dans ces outils. Donc, des outils qui vont centraliser tout le travail, tout le projet de recherche, donc toutes les interviews qu'on peut faire, toute la donnée, les études, les sondages, toute la data, on va la centraliser, la collecter là, et on va pouvoir commencer à l'analyser avec une approche, souvent l'analyse par tag, qui est pas forcément parfaite, parce qu'elle est très difficile à manier, mais elle a au moins le mérite de décloisonner et de pouvoir, en tout cas, dire que un verbatim peut être utilisé pour plusieurs sujets. C'est des outils tout en un qui vont aussi aider à faire une restitution limite en temps réel. On va reprendre, on va glisser, déposer nos éléments. Tiens, j'ai entendu ça, pouf, je vais les consolider, je vais les regrouper. Et en fait, on arrive à produire très vite, très facilement une matière justement qu'on va pouvoir livrer aussi plus rapidement. Donc, c'est un gain de productivité et puis c'est un gain d'efficacité et puis c'est un gain aussi en termes d'image de marque parce qu'on arrive à produire des choses très qualitatives pour les parties prenantes. Et donc, en fait, elles peuvent avoir comme un compte-rendu très rapidement en s'appuyant justement sur la réalité de ce qui a été dit autour d'un produit. Donc ça, c'est toujours intéressant. Donc ça, j'aime beaucoup ces outils-là. Je sais toujours les généraliser dans les environnements dans lesquels j'exerce. Moi, je templétise beaucoup. Je crée beaucoup de templates, de documents. On le dit, mais faire de la recherche, ça demande du temps. On bataille suffisamment pour avoir ce temps nécessaire pour pouvoir faire nos études. Alors, si on peut éviter de le perdre sur des gestes qui n'ont aucune valeur, comme créer, créer des documents, je parlais du research plan, enfin en fait c'est toujours la même trame, donc autant avoir un template pour ça, on le fait bien une bonne fois pour toutes et après on le réexploite avec l'identité graphique de l'entreprise, etc. Enfin un truc très propre, très clean, on investit un tout petit peu de temps dessus, mais après on peut le réexploiter très facilement et tout ce qui va permettre d'éviter de perdre du temps sur ces gestes-là, franchement, moi je le mets toujours en place, donc création de template, de support, des outils aussi pour faire du recrutement d'utilisateurs. C'est souvent un des plus gros, enfin c'est le plus gros pain point du researcher. C'est très difficile d'accéder à des bases d'utilisateurs. Donc tous ces outils-là, en tout cas, moi il y en a un que j'aime beaucoup, c'est Tandems. Je trouve qu'il fait gagner énormément de temps, qui est très facilitateur. Donc ça aussi, je l'intègre dans la boîte à outils du researcher.
Dans l'épisode 23, UX Research, un éloge de la curiosité, Grégoire Devoucou partageait l'idée d'un poste de Head of Curiosity.
Je ne sais plus exactement quel researcher américain qui disait « bientôt, on aura des Head of Curiosity dans les entreprises ». C'est cette capacité en fait qu'a une entreprise à aller chercher plus loin que ce qu'elle est.
Une personne responsable de porter la curiosité envers les utilisateurs et utilisatrices, mais également envers le marché.
Je trouvais que c'était une question, en tout cas, moi, qui m'a fait beaucoup sourire, justement, parce que je la trouve très, très surprenante. Et en même temps, elle est, c'est rien qu'en la posant, en fait, je vais pas dire que la réponse est dans la question, mais c'est vrai. Enfin, c'est vrai que moi, je l'évoquais dans les prérequis, en tout cas, des bagages du researcher, faut être curieux. C'est indispensable. Faut savoir penser, on dit think out of the box. Enfin, c'est indispensable en tout cas de penser au-delà de son quotidien, de son environnement habituel. Donc, aller prendre cette petite serpette et défricher le terrain. Enfin voilà. Donc ça, c'est indispensable. On doit prendre de la hauteur. On est aux premières loges de tout quand on fait de la research. Première loge de ce que vit l'utilisateur quand on lui met dans les mains le produit, quand on lui demande d'utiliser un service, on observe et on est les premiers à voir ses réactions. Et puis, dans l'autre barre, on est aussi les premiers à voir les réactions de ceux qui ont produit ou qui ont mis en œuvre ce produit. Donc, en fait, pour ça, on agit aussi comme des éponges. On peut imaginer, en fait, qu'on a une place qui est vraiment, comme je disais, qui est centrale. Finalement, on agit un peu comme un journaliste d'investigation. On doit trouver le bon format en fait pour soutenir le fond et la forme. Donc c'est vrai que en animant par notre curiosité, en s'animant autour de ça, on récolte énormément d'informations, de données, et c'est pas aberrant d'imaginer justement avoir un tel poste, un journaliste d'investigation, je sais pas, une petite Élise Lucet au sein de chacune des équipes en tout cas, qui viendrait justement animer ces différents journaliste de terrain pour aller brasser justement tout ce qui se dit, tout ce qui se fait, comprendre, de toute façon c'est la clé de la recherche.
En conclusion, qu'est-ce que le bon design ?
Pour moi, il est instinctif. Instinctif, c'est qu'il se comprend du premier coup finalement. Et ça va éveiller quelque chose en nous, donc du ressort de l'instinct. Je dirais qu'il est désirable, parce que justement il va susciter une émotion, ça va avoir une réaction, quelque chose, du chimique d'ailleurs, hein, mais en tout cas, ça va créer une émotion. Je dirais que le bon design doit aussi être enviable, on a envie de l'utiliser, donc c'est lié au désirable, mais ça va plus loin parce que c'est faire agir nos sens. On a envie de le toucher, de le sentir, de l'entendre, de le voir. Après, je dirais qu'il est accessible, je dirais qu'il est utilisable par un maximum de personnes, et je dirais qu'il doit aussi être inclusif, en ne mettant pas à l'écart des utilisateurs par ses propres fonctionnalités. Enfin, ça me semble juste essentiel. Après, j'ajouterais comme critère, je dirais qu'un bon design doit être sobre. C'est-à-dire sobre dans le sens où il doit faire juste ce qu'il doit faire, ni plus ni moins. Ça me fait juste rebondir aussi sur ce qu'on disait tout à l'heure, mais quand on parle du rythme effréné, en fait, il faut toujours produire plus, plus, plus. Enfin, souvent, quand on analyse, on se dit « attention ». Là, cette partie-là, on fait déjà beaucoup, on fait trop. L'utilisateur nous dit, il y a trop de choses. Donc, il faut épurer, il faut recentrer sur l'essentiel. Souvent, c'est le discours qu'on a. Donc, ça peut être aussi à l'origine de friction, justement, avec certaines équipes. Mais donc, du coup, la sobriété, enfin, en tout cas, je trouve que c'est important. Après, je dirais qu'il est communicatif, le bon design, parce qu'il fait parler pour ce qu'il est, du coup, peut avoir une caisse de résonance autour de soi. Tiens, ouais, c'est super ce que t'as, c'est quoi? Enfin voilà, donc ça fait parler. Et j'ajouterai un dernier critère qui est qu'il soit durable dans l'air du temps, évidemment, mais qu'on puisse l'utiliser sur du temps long et pas jetable. Enfin voilà, surtout pas jetable.